Salut à tous et bienvenue, vous écoutez Les Éclaireurs. Salut à tous, c'est l'heure des éclairages numéro 18. Pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi Randall Flagg soulignement.
Oh, c'est moi, Randall Flagg underscore.
DZ Rider, es-tu là?
Ah, oui, excuse-moi. Non, j'étais en train de bloquer sur le soulignement. D'accord.
Ouais, j'expliquerai. J'ai avec moi Zafeu.
Salut les gamins.
Et Jonathan, de Voyage Cast, je précise comme ça.
Salut les jeunes.
Alors, Zafeu, Jonathan, c'est la première fois que vous venez.
Ouais, quelle chance, hein.
Eh oui.
On a un peu peur.
Ça va bien se passer. Bon, comment ça va en ce lundi? Ça n'a pas été trop dur?
Si.
Si.
Si. Moi, je vous préviens, je suis complètement claqué. Franchement, je vous lance et puis je vous récupère à la fin, on fait comme ça.
T'évites de ronfler, par contre.
Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce soir? On va commencer avec des riders. Tu vas nous parler de quoi?
Eh ben, je vais parler de... Alors... J'ai décidé de parler de Bravely Default.
Ouais.
C'est actuellement un jeu qui me prend le plus de temps, on va dire. Même si dernièrement, j'ai un peu laissé de côté pour le bâton de la vérité. Quel jeu aussi, celui-là.
Alors, de quoi on va parler, Zafeu? Tu vas nous parler de quoi?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un petit film, Freaks, de Todd Browning. Donc, un petit film fantastique des années 30.
Parce que le Freaks...
C'est chic.
Après, ça va être Jonathan, tu vas nous parler de quoi?
De la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. C'est des livres qu'il faut absolument lire et ceux de la hard SF.
Et on va terminer avec Randall Flagg soulignement.
Arrête avec ça.
Oui, alors de quoi tu vas nous parler?
Moi, je vais vous parler d'une petite série que pas grand monde connaît qui s'appelle Banshee.
Très bien. On va commencer par DZ Rider qui va nous parler de Bravely Default. Je lance le jingle. Tu sais que cette musique, ça m'a donné envie direct d'acheter le jeu.
Ah ouais, non mais la BO est magnifique. Elle est disponible, hein, la BO. Vous pouvez la choper. En MP3,
Il y a moyen.
Il y a moyen, il y a toujours moyen.
Et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique, quoi. Mais comme je disais, je suis un énorme noob en RPG.
Ouais.
Donc, jamais fait un FF, comme je disais.
En JRPG ou en RPG tout court?
Alors après...
Quel RPG?
Non, ouais, tout. Enfin, clairement, je suis fan de Zelda, très fan.
Ouais,
c'est pas un RPG. Carrément, c'est pas un RPG. Mais tu sais, dans la vue, dans le style, enfin, il y en a qui disent, quelquefois c'est un RPG. Enfin, bon, il y a un Zelda, je sais plus lequel, qui est considéré quand même un RPG.
Action RPG.
Ouais, voilà. Ouais. C'est plutôt un jeu d'aventure. Mais sinon, non, RPG, ce qui me gavait dans les FF essentiellement, c'était d'avancer sur la map et de tomber tous les 20 mètres aléatoirement sur des relous qui veulent faire la bagarre.
Et ça, la bagarre.
Ouais, mais ça, c'était autant des rencontres aléatoires. Maintenant, ça s'est changé. Maintenant.
Bah, écoute, non, pas spécialement. Parce que Bravely Default, tu l'as toujours, les rencontres aléatoires. Mais tu peux activer plus ou moins. J'en parlerai après, mais voilà. C'est dans un des points positifs, du coup. Mais non, c'est vraiment le même style. Je vais faire un petit pitch. Alors, un pitch à la noob qui n'y connaît rien. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une gonzesse qui a, alors, 17 ans ou 20 ans. 17 ans chez les Japs, 20 ans chez nous.
Hein. Okay.
Et elle est pas très gâtée par la vie, cette pauvre. Premièrement, parce qu'elle a un nom de merde. Elle s'appelle Agnès Oblige. Voilà.
Ah, le framponnais.
Voilà. Je sais pas d'où ça vient, mais enfin non. Après, tu vois, comme je suis un énorme noob, je le répète, peut-être qu'il y a des significations, des trucs qui sont complètement normaux pour des joueurs de RPG. Mais alors pour moi, c'est un peu...
Non, mais en tout cas, les Japonais adorent donner des noms français aux trucs, même s'ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Donc.
Ouais.
comment il s'appelle, Florent Gorge a fait un,
oui, j'avais
un bouquin là-dessus.
Ouais. Sur les enseignes au Japon.
Ils appellent ça le framponnet.
Donc voilà, elle a un nom de merde. Elle a pas l'air très très finie. Au début du jeu, elle est complètement niaise. Mais bon, apparemment, c'est normal pour un RPG. Il y a toujours une niaise dans le coin.
C'est vrai, mais c'est pas toujours le personnage principal, par contre.
Ouais. Mais non, mais en fait, ouais, elle est un peu... t'as envie de la baffer, quoi, au début du jeu. Et enfin, c'est une Vestale. Pour un gros noob comme moi, une Vestale, j'étais là, qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? Et alors, je suis allé sur Wikipédia. Et alors, j'ai trouvé... Bah, la Vestale, c'est une prêtresse de la Rome antique dédiée à Vesta, une divinité dont le culte est probablement originaire de... Enfin, bah, donc, c'est une... En gros, pour moi, je suis resté sur c'est une prêtresse.
D'accord.
Les Vestales... toujours dans Wikipédia, ils disent que en gros elles sont choisies entre 6 et 10 ans et à être la prêtresse, et puis elles font que ça, quoi, de leur vie. Donc là, pareil, elle a été choisie très jeune, et en gros on l'a forcée à être nonne, gamine, quoi. Mmh. Et elle connaît rien de la vie, à part son cristal de vent, qu'elle prie tous les jours, et bah, manque de bol, les forces du mal viennent foutre le bordel, et elle s'empare, de tous les cristaux. Donc le sien aussi. Hein. Et donc ça la force à sortir de son trou avec une petite fée qui s'appelle Eri.
Hey, listen.
Hey, ça m'a fait trop penser à ça.
C'est bien la fée de.
Et là tu vois, c'est là où j'ai fait le rapprochement avec Zelda. J'ai fait tiens, mais je connais ce truc là. Ah, une petite fée. Ça me fait penser à Navi. Navi dans Ocarina of Time.
Et oui.
Enfin bref. En gros, elles se cassent toutes les deux pour sauver le monde, libérer les cristaux et essayer de pas se faire gauler par la troupe d'Eternia. C'est les grands méchants qui n'aiment pas l'orthodoxie cristalline. Donc, l'orthodoxie, c'est ceux qui prêchent, qui sont fans des cristaux.
Des cristaux.
Hein. Alors, va comprendre, mais bon. Donc, sur la route, elle va rencontrer trois autres gamins qui auront toute une bonne raison de l'aider. Enfin, de l'aider et d'aider sa petite fille. Elle rencontre Tiz, donc là en gros c'est vraiment le début du jeu. Elle va rencontrer Tiz qui est un berger, donc pareil. Hein,
Tiz qui a tendance à picoler, j'imagine.
Mais non, même pas. Bah, il a.
Bah, pourquoi il s'appelle Tiz?
Je sais pas, c'est moi les noms, j'ai rien pris. C'est un berger, il a entre 16 et 19 ans, parce que bah, pareil, hein, différence d'âge.
Ouais, mais c'est le décalage horaire, il y a toujours 3 ans entre les Japonais ici. Hein.
Oui. Ça permet de justifier certains trucs injustifiés. Ouais,
ça doit être ça. Ouais.
C'est le seul survivant de son village qui a été englouti dans un énorme gouffre, bah, encore par ces enfoirés hein, qui foutent un peu le bordel avec les cristaux.
Jusque-là, ils ont pas trop la chance, tes potes.
Non, carrément. Bah... bah, et puis, bon, il lui arrive plein de saloperies. Hein. Et on sent assez rapidement qu'il a envie de se taper la Vestale, quand même. Après, il rencontre assez rapidement aussi Edea, qui est une petite blonde rebelle, une grande gueule, qui est originaire d'Eternia, donc vous vous rappelez, l'Eternia, c'est les enfoirés.
Grand méchant.
Eternia, c'est Quentin un rhume.
On a encore 3/4 d'heure, je vous rassure, avec la flag.
Ouais, c'est clair. Et donc, bah, elle était sous les ordres du mage noir, et elle a rejoint le groupe de Tiz et de Agnès, parce qu'elle a pas aimé la brutalité du mage noir, blablabla. Bla, bla. Et à la fin, il trouve le meilleur. C'est un queutard amnésique qui s'appelle Ringbell. Il cherche à choper tout ce qui bouge, surtout Edea, hein, celle qui était avec le mage noir. Donc voilà pour le pitch. Hein. Très, c'est assez marrant. Et donc ensuite, bah, c'est du RPG tour par tour. Mais comme je disais, il y avait des petites différences par rapport à ce que j'ai connu. C'est-à-dire que bah, le point qui m'a fait continuer, c'est justement le fait de ne pas être obligé de se faire gaver par la bagarre toutes les 10 secondes. Le jeu, il offre 5 niveaux de bagarre,
de rencontres aléatoires,
c'est-à-dire 0, c'est le mode normal. Après, tu peux descendre de moins 50%, moins 100%. Donc moins 100%, on désactive complètement la baston.
Comment tu gagnes de l'XP, alors?
Bah alors, justement, c'est ça le problème. Mais bah, après, moi, ce que je m'en sers pour, par exemple, quand on va dans les donjons, on a tout le donjon à se taper avec plein de mecs à buter, et puis à un moment t'as envie de retourner à l'entrée du donjon pour aller quelque part, bah tu désactives la baston, tu sors, tu vas faire tes petites emplettes ou acheter des potions et tout ça, et hop tu reviens et tu te remets à 100%, quoi, ou à 0 ou à 50. Parce que t'as le 0, c'est le mode normal, et après tu peux monter à 100%, plus 100%, c'est-à-dire que là...
deux fois plus
Là, tu peux pas faire un pas sans avoir un combat.
Le 100%, c'est insupportable, quoi.
Est-ce que les strums qui t'attaquent sont visibles sur la carte ou pas?
C'est ça, non.
D'accord.
Donc le plus 100%, et vraiment, c'est... moi je m'en sers pour faire après du leveling. Quand je fais une grosse passade où je me mets à moins 100 parce que ça me gave de me battre et j'ai juste envie de me la faire en mode Zelda, justement, de découvrir le donjon sans me faire chier, et ben je le fais comme ça, puis après je fais de l'XP avec du plus 100, je fais des grosses passades XP.
Et tu fais du farming juste pour faire du level. Mmh.
Bon, après voilà, je le joue comme ça parce que, comme je le dis, hein, je suis un noob et que y a sûrement des meilleurs moyens de le faire ou de rester à zéro et puis faire le jeu comme il est programmé, quoi. Mais comme c'est le truc qui me gave, du coup voilà, ça me permet de passer là-dessus un peu ce mode là. C'est assez rapide en plus, il suffit d'aller vite fait dans les options, activer, désactiver, puis basta, quoi.
Ouais, c'est toujours les retours dans ce genre de jeu qui sont casse-pieds, quoi. Justement, quand t'es bloqué, il te manque un truc, ou alors ton arme n'est pas assez bonne. Ouais, c'est fou,
donc,
ça.
Du coup, comme tu désactives, tu retournes là où t'as envie, et puis basta, quoi, tu te fais pas chier. Surtout, en fait, plus tu te bagarres, plus tu vas perdre tes points de magie. Les points de magie, c'est hyper cher à récupérer. Et donc, du coup, il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir récupérer aussi bien ta vie que les points de magie, c'est en allant à l'auberge.
Dodo dans l'auberge.
Et les auberges, elles sont tout le temps à 4 bornes, quoi. Et donc voilà, il y a ça aussi. Ça me permet de...
aller dans une bonne
auberge. On va manger des chips. Et donc voilà, après, le système, c'est du tour par tour plutôt bien pensé. On sélectionne chaque perso pour les attaques défense, puis on laisse tourner la bagarre, quoi. Après, c'est du tour par tour normal, sauf que là, il y a la spécificité de Bravely Default, c'est Brave et Default, c'est les deux spécificités dans la baston. Donc en fait, en utilisant une fois Brave, le joueur va faire une attaque supplémentaire lors de son tour, le personnage.
D'accord.
Mais par contre, lors du tour suivant, il ne pourra pas attaquer.
C'est du timing.
Ouais, ça dépend. Comme tu connais, au bout d'un moment, les
réactions.
Les ennemis en face, tu sais à peu près quel niveau ils sont, et tu sais que si en gros tu fais un coup de brave, donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire deux actions par ton personnage, pour tous les personnages, donc x4, donc ça fait 8 actions sur le même tour, potentiellement tu peux le défoncer d'un coup, quoi. Et donc du coup tu gagnes plus d'XP parce que t'as des bonus d'XP parce que tu l'as fait en un seul tour. Donc ça c'est le brave. Et si par contre t'as envie de faire un stock d'actions, tu utilises default.
Tu fais rien du tout.
Ouais, en fait tu fais rien, tu utilises default. Donc en gros ça se met en position de défense, un peu plus de défense, quoi. Et donc quand tu te fais toucher, tu prends moins cher que si t'avais pas fait ça. Et après tu pourras utiliser, ça te fait augmenter
une jauge.
Non, un nombre de points. Enfin, tu peux aller jusqu'à plus 3, en fait. Et après, tu peux tout déclencher d'un coup. Donc, potentiellement, tu peux te faire 5, 6, 7 d'un coup, si tu fais beaucoup de default. Après, tu pourras utiliser 5, 6 fois le brave, et comme ça, tu peux envoyer 5 actions en même temps, quoi.
C'est de la charge, quoi.
Mais par contre, si tu descends, en dessous de 0, 0, c'est ton point nominal, on va dire. Et si tu fais un brave, tu vas passer à moins 1, ce qui veut dire que derrière, le truc d'après, là, tu reviens à 0. Donc tu pourras pas jouer, tu vas perdre ton tour. Carrément, tu peux partir jusqu'à moins 2, même moins 3, je sais plus. Et moins 2, au moins. Par contre, faut être sûr de ton coup, quoi. Savoir que le boss en face, il est à pas beaucoup de vie, et tu sais que tu vas pouvoir l'exploser grâce à ces coups-là. Donc voilà, c'est intéressant, parce que du coup, on peut... tu joues là-dessus en faisant des braves, des coups, des defaults. C'est vraiment sympa.
D'accord. Ouais.
Donc
c'est sur 3DS, hein,
ouais, oui, j'ai même pas dit, c'est sur 3DS. 3DS, 2DS.
Et il y a une démo qui est dispo.
Oui, la démo elle est dispo, et elle est super bien foutue, parce que tu peux jouer hyper longtemps. Je l'ai pas faite.
Et il paraît que c'est un espèce de complément du scénario du jeu.
Je peux pas dire, parce que
d'après ce que j'ai entendu, ouais, c'est une espèce de prequel qui te permet de rajouter quelques petits avantages dans le jeu. Je l'ai pas fait.
Tu peux, alors ce que je m'en souviens, parce que j'ai lu rapidement sur le truc, c'est que dans Bravely Default, t'as aussi un autre à côté, qui a un fil rouge, l'autre, la tease, qui a perdu son... tout le monde...
Désolé, je peux pas, sinon...
qui a perdu tout le monde dans son gouffre là, enfin son village qui a été qui s'est fait qui est tombé dans le gouffre. Tu dois le reconstruire ce village là.
Village.
Et donc ça c'est vraiment le fil rouge qui est complètement à côté du jeu. En gros, tu vas reconstruire des cabanes ou des machins qui vont t'apporter des nouveaux items dans les échoppes. C'est-à-dire, tu vas pouvoir débloquer des nouvelles épées, tu vas pouvoir débloquer des nouveaux anneaux de protection, tu vas pouvoir débloquer des nouveaux pouvoirs spéciaux, des choses comme ça. Plus tu reconstruis, plus ils viennent te filer aussi des potions, des choses comme ça. Tu gagnes des potions gratos en reconstruisant. Alors le truc, ça veut dire que t'es obligé. On va dire qu'une reconstruction, là, je suis rendu à... T'as 11 niveaux par petite cabane. Et il y en a une quinzaine, je crois, en tout, sur le village. Et donc t'as 11 niveaux par maison, et au bout du 10e niveau, même un peu moins, ça met 99 heures avec un seul personnage à reconstruire. Mais tu peux cumuler, tu peux avoir jusqu'à... là, moi, j'en ai que 14 bons hommes qui bossent pour mon village. Mais ça, tu gagnes des gens, tu gagnes des petits persos en synchronisant avec Internet et en ayant des amis sur avec du Street Pass, tout ça. Alors moi, dans mon trou, j'ai personne qui joue à Bravely Default, donc je sais pas comment je récupère ces mecs-là, mais bon, je suis rendu à 14 petits villageois qui reconstruisent.
Ça veut dire qu'en fait, tu fais bosser tes amis Street Pass Et comme je suis dans ta liste, c'est-à-dire que je suis ton esclave.
Hein. Je sais même pas si t'es dedans ou pas.
J'actualise
mes données et puis hop, quelque chose, j'ai. Ah, vous avez gagné, vous avez eu 3 nouveaux villageois. Mm-hmm, d'accord, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est un fil rouge qui t'oblige du coup à laisser ta DS en veille et à faire bosser ça tout le temps. Donc, du coup, ma DS, elle est jamais éteinte, elle est toujours en veille sur le jeu. Mais le décompte des heures que tu passes sur le jeu n'est pas pris en compte là-dedans. C'est-à-dire que tu la laisses en veille, ça fait tourner, mais...
Mais ça enlève pas les heures construites.
Et t'avais dit que t'avais combien d'heures de jeu, déjà ?
Je suis rendu à 40.
ouais, quand même.
Je suis rendu à 40 et je crois que j'ai dépassé la moitié du jeu. Donc, il y a encore de quoi faire, apparemment.
En comptant les quêtes annexes, je pense que t'as une centaine d'heures.
En fait, moi, j'ai l'habitude, dès que je vois une quête annexe, je vais la faire. Alors, il y a ça aussi. Ouais. Et puis, les quêtes annexes te permettent... généralement, tu vas aller, par exemple, buter un mage rouge et tu vas obtenir aussi ses pouvoirs. Donc, potentiellement, tu gagnes des jobs en faisant les quêtes annexes. Ou tu gagnes des trucs, donc c'est intéressant aussi. Donc, voilà, ça, j'en ai pas parlé. Les jobs, il y en a plein à débloquer. On peut, après, mixer les jobs. C'est-à-dire qu'on peut avoir une classe principale, genre mage blanc, et un job en plus... chevalier par exemple, donc un mage blanc chevalier où tu peux mixer, tu peux faire des mix de complètement de... débiles quoi, parce que le mage blanc et le chevalier ça va pas trop ensemble, le chevalier il a besoin d'une épée et le mage blanc il a besoin d'un bâton, donc voilà.
Et en fait ça fait un fromage blanc.
Ouais, j'étais dessus mais je voulais pas la faire.
Oh, quand il l'a snipé quoi.
C'est clair. Donc voilà, et ça c'est la partie un peu plus complexe pour trouver le bon mix dans les trucs, mais dans les classes. Mais bon, on s'en sort, et puis il y a des sites qui aident pas mal, quoi. Et donc, comme je disais, l'OST, elle est superbe. La bande-son, elle est parfaite. Un truc énorme aussi, c'est qu'on peut avoir les voix en VO, donc en Jap, en sous-titré FR, hein, mais ça, c'est... Ouais. Parce que, de base, elle est en anglais. Et ouais, la VO, c'est quand même vachement plus sympa, quoi. J'avais un coup de gueule. C'était le coup du fil rouge, de reconstruire le village. Ça, c'est un peu chiant. Et il y avait un autre truc aussi où y a un système de paiement in-app si tu veux avoir... Ça, je m'en sers jamais. C'est un truc où, en gros, dans la bagarre, tu peux mettre... T'as un système de sablier, en gros, ça met en pause et ça te permet de lancer une action en plus complètement... en dehors de Brave ou Default, quoi. Ça te permet de lancer un coup en plus.
Une attaque bonus.
Et ces coups-là, tu les gagnes, t'en gagnes un tous les 8 heures, je crois. Et... Non, même si tu laisses
tourner. Le jeu de veille.
Ouais, même.
Ah bon, ça va alors.
Et du coup, si t'en as plus assez et que t'en veux d'autres, tu fais du piment in-app. Et ça, Enfin, pour un jeu sur DS, même, tu vois.
Mais qui est déjà voilà, 45€,
je trouve ça un petit peu limite. Bon, t'en as pas besoin, mais ouais. Clairement. Mais rien que le fait que ça, qu'il y en ait, ça m'a gavé. Donc voilà.
Ouais. Ah, c'est la petite incursion économique dans le jeu, quoi. C'est dommage. Mais ça, c'est que ça me donne envie d'acheter une 3DS. Hein.
Bah, sinon, j'ai Donkey Kong Country Returns.
Très bien. Bah, merci, t'as fait le tour ?
Ouais, j'ai fait le tour.
Parfait. On va passer à Zafeu. Zafeu, est-ce que tu es prêt ?
Eh bien, je suis prêt.
Allons-y. Peut me dire d'où cette musique vient.
Et bien du film lui-même, j'imagine, non ?
Et non, parce que j'ai pas trouvé de musique pour le film.
D'accord.
Ça vient du jeu Psychonauts.
Ouh, oui.
Et oui, parce que...
Je connais pas.
Oh, dommage, faut y jouer. Hein. Alors, Zafeu.
Alors donc, comme vous avez pu l'entendre sur la musique, je vais vous parler d'un petit film qui se passe dans le monde du cirque. Ouais. Alors, ce film s'appelle Freaks, ou alors La Monstrueuse Parade, et date de 1932. Alors, quand j'ai voulu faire cet article, je me suis posé la question. Je me suis dit, mince, ils le regarderont peut-être pas, mais je vais quand même pas leur spoiler le film. Voilà, donc, mon but, c'est de vous parler de ce film sans vous parler d'histoire.
Merci.
Bah, okay. C'est en noir et blanc, juste pour savoir.
Ah, alors, oui. C'est en noir et blanc. Oui, oui, c'est en noir et blanc, mais c'est un film parlant.
Ouais.
Ah.
Ah, cool.
Voilà. C'est un film qui est assez court. Il ne dure qu'une heure quatre.
Ah ouais.
Et bon, je vais commencer par vous en parler. Donc déjà, son réalisateur. Alors son réalisateur, c'est un réalisateur qui est assez connu. Vous avez sans doute vu ou entendu parler de certains de ses films, c'est Todd Browning.
T'as pas des exemples de films?
Ah ben justement, je vais vous en donner. Alors, il est né en 1880 à Louisville, dans le Kentucky. Et la légende dit qu'à l'âge de 20 ans, il a quitté sa famille pour suivre un cirque et faire le tour des États du Sud des États-Unis. Donc il commence à jouer au théâtre et va à Los Angeles dans les années 1913-1914. Et en 1915, il commence à jouer dans des petits courts-métrages. Voilà. Donc il rencontre différentes personnes, le PDG d'Universal de l'époque qui s'appelle Irving Thalenberg. J'ai marqué plein de noms hein, sur Wikipédia.
C'est bien.
Oui. Et il commence à réaliser. Maintenant, je vais parler de ses réalisations. Alors ses réalisations, on l'a surnommé l'Edgar Poe du cinéma.
Ah,
c'est un grand maître du cinéma fantastique des années 20 et des années 30. Et c'est un réalisateur qui a une particularité. Il aime bien les mondes qui tendent vers l'étrange, le morbide, etc. Il a souvent fait des films avec des scénarios un peu bizarres. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous donner le pitch d'un de ses films de 1927 qui s'appelle L'Inconnu. Alors, c'est l'histoire d'un faux manchot, c'est-à-dire d'un homme qui fait semblant de ne pas avoir de bras, enfin l'animal, hein, qui tombe amoureux d'une écuyère d'un cirque. Là, on se retrouve encore dans l'univers du cirque, un univers qu'adore Todd Browning. Alors, cette écuyère a été violée, étant plus jeune, et elle a la phobie des mains de l'homme, des mains humaines. Et donc, elle trouve un certain attrait pour les hommes qui n'ont pas de mains. Donc,
ouais, c'est limitant quand même.
Voilà. Donc, oui.
C'est ça.
Donc, ce mec, le héros, fait semblant d'être manchot. Et pour s'assurer de l'amour de la jeune fille, il se fait réellement amputer.
Oh putain, c'est sympa. Voilà.
Quand on aime, on compte pas.
Voilà, exactement. Et quand il revient après son amputation, la jeune fille est apparemment guérie et lui préfère un homme normal.
C'est con.
Voilà, c'est con. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu l'exemple des univers qu'aime bien.
Mais là, t'as spoil.
Oui, mais c'est pas sur le bon film.
Il a spoilé un autre.
Ouais, mais
film.
C'est triste. Je voulais le regarder.
C'est celui-là que je voulais voir. Mais...
Ah oui.
Parce que j'ai déjà vu Freaks.
Donc ensuite, ce réalisateur va faire quelques autres films, comme. Alors je vais vous dire les titres en français, parce que mon anglais était tellement mauvais. Le Club des Trois. Alors le Club des Trois, c'est l'histoire de trois bandits, trois gangsters.
Des bandits manchots.
Oh, j'allais la faire.
Pas là. Ouais,
d'accord.
Pas là. Donc un ventriloque qui joue le rôle d'une vieille dame. Un colosse, genre Hercule, et puis un nain déguisé en enfant que la vieille dame pousse dans une poussette. Et donc ces trois-là vont divaliser des gens, des personnes, etc. Et c'est donc une histoire de gangster. Donc ce film a eu pas mal de succès. Ensuite, en 1931, il rencontre un acteur qui s'appelle Bela Lugosi.
Mais oui.
Voilà. Ah. Et il fait un petit film, je crois, qui s'appelle Dracula.
Ah, donc Dracula.
C'est lui qui a fait Dracula avec Bela Lugosi en 1931. Pendant ces années-là, ce réalisateur est très bankable. Pratiquement tous au film ont du succès, ce qui fait que c'est un des seuls à l'époque à avoir le final cut sur ses films. Il a le droit de choisir ses acteurs, son scénario, il fait lui-même son montage, il donne le film est montré comme tel au public.
Ça devait déjà être plus facile dans les années 30 que maintenant, tu vas me dire.
Alors sûrement.
D'avoir le final cut.
J'ai très très peu de souvenirs de cette époque, malheureusement.
Ouais, mais moi je suis assez vieux pour me souvenir.
Moi j'étais pas là.
Et donc, suite à ce film Dracula, on a une grande mode de films assez noirs, assez trash. Frankenstein se fait dans la. La MGM fait Frankenstein dans la foulée. Non, c'est Universal. Et ensuite, le président de la MGM demande donc à Ted Browning de faire un film qui soit encore plus horrifiant que Frankenstein. Un énorme succès.
D'accord.
Et là, on va lui donner l'histoire, lui raconter l'histoire, lui donner un. Histoire, essayez que j'ai le trou, évidemment, c'est toujours la même chose.
Scénario.
Ouais, le scénario.
Scénario, le script.
En fait, c'est une nouvelle qui s'appelle Spurs.
Spurs.
Et donc, Fricks va être tiré de cette nouvelle qui s'appelle Spurs. Le cadre de l'histoire est la même, le début de l'histoire est la même, mais la fin est totalement différente. C'est pour ça que je vais vous raconter...
La fin du film.
Non, je vais vous raconter...
La fin du scénar. De
la
nouvelle.
La nouvelle qui a fait scénar.
D'accord.
Alors, c'est l'histoire d'un nain qui s'appelle Jacques Courbe et qui se produit dans un cirque dans le sud de la France. Donc, ce nain est monté sur un chien loup qui s'appelle Saint-Eustache.
Comme tous les nains.
Exactement, évidemment, bien sûr. Et ce chien loup, Saint-Eustache, veille fidèlement sur le nain. Donc, Jacques s'éprend d'une belle écuyère blonde qui s'appelle Jeanne-Marie.
D'accord.
Ça sera toujours, oui. Mais ça sera toujours les mêmes histoires avec lui. C'est souvent...
Et est-ce que c'est une écuyère en argent ?
Ah, les blondes, ça serait plutôt écuyère dorée, cette fois-ci.
D'accord.
Et donc, cette écuyère, c'est la maîtresse de son partenaire, Simon Lafleur, qui est, pareil, comme d'habitude, un colosse. Souvent dans les histoires de Browning.
Mais il met que des colosses, j'ai l'impression que le coloscopie. Mais...
Il a des obsessions.
Il a des obsessions.
vous deux, je vous sépare au prochain cours. Hein.
Donc, Jacques, le nain, hérite de son oncle, et... Par magie, Jeanne l'écuyère accepte donc d'épouser Jacques, pensant que Jacques mourra bientôt.
C'est plus belle la vie dans un cirque.
Oui, c'est un peu ça.
Et le but ensuite, c'est de se marier avec Simon. Donc, il se marie, elle se marie avec Jacques, mais Jacques comprend assez vite que cette nana, elle n'est pas blanc-bleu, et puis il décide de reprendre un peu le dessus et de se venger. Alors, les mois passent, Jeanne revoit Simon, et elle lui dit que Jacques le traite comme une esclave, la maltraite, etc. Simon veut protéger sa belle, il veut l'aider, mais Jacques apparaît sur son fier destrier, sur Saint-Eustache.
Ah, oui.
Il charge Simon, il l'attaque tel un chevalier, et Simon s'enfuit. Et donc à la fin de cette nouvelle, il va continuer à obliger Jeanne à le porter, parce que maintenant ce n'est plus Saint-Eustache qu'il porte, mais c'est sa femme, Jeanne. Donc elle le porte sur ses épaules, et il va traverser avec elle la France, de ville en ville, constatant combien, à coup d'éperon, on peut rapidement chasser le démon du corps d'une femme.
Magnifique.
Bon esprit.
C'est beau. Oui, c'est ça, voilà.
Ça donne envie.
C'est suivant cette histoire que va être fait ce film. Le tournage du film a été assez compliqué. Parce que donc, Todd Browning a décidé... que l'histoire se jouerait dans un cirque, que ce cirque montrerait des phénomènes de foire. Alors là, je vais choisir des mots. Je vais souvent dire pour phénomène de foire créature ou monstre, pour rester un peu dans l'ambiance de l'époque.
Oui,
ouais, c'est
voilà,
l'époque.
C'est l'époque.
Hein. Remettre dans le contexte.
Remettre dans le contexte, exactement. Donc, il choisit pour jouer les personnages de ce film de véritables phénomènes de foire, de véritables monstres. Qu'il ira chercher au Cirque Barnum ou dans différents cabarets de l'ouest des États-Unis.
Parce qu'à l'époque, les cirques faisaient aussi montrer des phénomènes de foire plus que des numéros.
Oui, exactement. Alors on va trouver le nain Harry, le héros du film. On va trouver en phénomène de foire Johnny Heck, qui est un homme sans jambes, donc qui est né sans jambes. Alors l'histoire de Johnny Hecht, elle est assez rigolote entre guillemets, parce qu'il a un frère jumeau qui lui...
Il n'a pas de bras.
Non, qui lui est né tout à fait normal. Il est tout à fait normal, et tous les deux, ils vont faire des tours de magie, dont un tour d'homme coupé en deux, où le frère, je vais dire entre guillemets, entier, entrera dans la boîte. On coupera en deux.
Ils sont jumeaux.
Ils sont jumeaux. Et ça sera donc son frère sans jambes qui sortira.
Malin, les jumeaux.
Voilà, malin, les jumeaux.
Mais attends, t'as dit qu'ils avaient pris des vrais gens. Donc il y a vraiment un mec qui a pas de jambes, qui a joué dans le film.
Il y a vraiment un mec qui n'a pas de jambes
et qui a
joué dans le film, tout à fait.
Parce que c'est flippant.
Oui, non, mais c'est. Je vais y venir justement de cette. À la flipperie.
Les bras m'en tombent, disons.
Dans ce film, on va trouver aussi d'autres personnes, comme Schlitz, que l'on appelle, qui fait partie d'une troupe de têtes d'épingle, des microcéphales, personnages avec des têtes vraiment minuscules, toutes petites. Voilà, on va trouver Radian, un homme tronc. Alors un homme tronc, il a une tête et le tronc, pas de bras, pas de jambes. Pareil, c'est un
personnage. Avec la musique, il y a la musique de Daft Punk aussi.
Voilà. Alors,
c'est vrai que tu avais parlé de George Tronc.
Non, pas... oui, non parce que celui-là n'a pas de pied.
Ah oui, pardon. Pour Georges Tron, ce serait un problème.
Non, pardon.
Jacques Dutron aussi.
Et donc, Randian, donc cet homme tronc, jouait aussi dans des cirques. Alors, c'est quelqu'un qui, avec sa bouche, pouvait écrire, peindre, se raser. Il pouvait se rouler une cigarette juste avec sa langue et ses lèvres et allumer sa cigarette. Bon, vous pouvez aller voir sur Internet, on trouve de très jolies photos de ces jolies personnes.
Ouais, ouais, flippant, hein, quand même, les photos, hein, franchement.
Alors, et... Deux héroïnes entre guillemets. Dans ce film, on va trouver les sœurs Violette et Dizzy Hilton, qui sont des sœurs siamoises, très jolies.
Qui aiment bien les chats.
Donc, pendant les années 30, les années 40, ça va être des véritables stars aux États-Unis, qui seront dans tous les tabloïds. Les tabloïds suivront leurs histoires d'amour, etc., etc. Une histoire d'amour avec une siamoise, avec des siamoises, ça peut être assez
original.
Voilà,
intéressant.
Je trouvais pas le mot. Original. Donc on va trouver des personnages de ce style dans ce film. Et de là va venir des difficultés pendant le tournage. Alors c'est un tournage qui va être assez court, il va durer un mois. Et le premier problème que va avoir Todd Browning pendant le tournage, c'est que ses acteurs vont être très très mal acceptés des techniciens à Hollywood. Ils vont avoir l'interdiction d'aller dans la même cantine qu'eux. Donc ils seront totalement mis de côté.
Ça craint,
quoi. Ça craint.
C'est représentatif de l'époque.
Ouais,
oui. Sauf pour le nain et pour les siamoises qui sont de grandes stars, qui eux pourront quand même aller à la cantine. Mais pour les autres, non. Ces phénomènes de foire, ce sont des stars dans leur domaine et vont aussi jouer les stars pendant le film, à, on va dire entre guillemets, emmerder les techniciens.
À faire les divas,
exactement. Ce sont des personnes qui savent se montrer, mais qui en général ne savent pas jouer. Donc Todd Browning va être obligé de rejouer plusieurs fois les scènes, mais en muet pour faire ensuite de la post-synchronisation. La post-prod. Et donc il va avoir des tas de petits soucis.
Oui, ben.
Alors, en janvier 32, le film est présenté à la première projection test. Alors c'est une projection qui se passe, on va dire, moyennement bien, parce que certains spectateurs vont s'évanouir et d'autres vont fuir la salle. Alors pour... La première fois depuis très longtemps, les producteurs vont dire à Todd « Stop, t'arrêtes tout. On reprend le film et on le remonte. »
Putain, d'accord.
Voilà. Ils vont le remonter, ils vont changer le début, ils vont changer la fin. Une fin dans le film qui était vraiment assez horrifiante. D'ailleurs, on n'a plus de traces de cette fin, c'est bien dommage.
C'était celle de la nouvelle de base ou encore autre
chose ? Non, c'est totalement autre chose. Ah non, la fin...
D'accord.
Alors, dans la...
Même la fin, non...
De la nouvelle de base va être prise, donc l'histoire dans le cirque... va être pris le mariage, mais la fin change totalement. Et d'accord. Là, je veux vraiment pas vous raconter la fin.
Parce que moi, je l'ai vu il y a tellement longtemps, je m'en souviens plus du tout.
Oui. Alors, pour dire, je vais vous faire un petit spoil quand même. Donc, pendant le mariage, on a le banquet avec les cuillères, son amant et puis les monstres. Et les cuillères va essayer directement pendant le mariage d'empoisonner son mari. L'empoisonnement se passe assez mal et on va dire entre guillemets que les monstres vont se retourner contre les deux personnes, mais je vous raconte pas la fin.
J'essaie de m'imaginer comment tu peux être menacé par un homme tronc. J'ai un peu de la peine.
Oui, mais quand t'es deux et que t'as une antenne derrière toi, ils vont avoir des troncs.
On peut pas tenir en joue.
On pourra avoir une belle poursuite Assez bien filmé d'ailleurs.
Attends, une poursuite d'Omtron, tu m'excuses, mais.
Je suis désolé. Voilà, ça fait des travelling un peu lents, mais ça marche.
Ouais, voilà. On est horrible. Hein. Désolé.
Voilà, donc ensuite ce film va sortir en salle. C'est un échec complet. Il leur a coûté 316 000 dollars et il en aura rapporté 150 000.
Pour l'époque, c'est beaucoup, 316 000 dollars.
Ça devait être, monstrueux. Hein.
C'est clair.
Si j'ose dire. Je fais même pas exprès, celui-là.
Alors, ce film va être interdit dans quelques états des États-Unis, va être interdit 30 ans en Grande-Bretagne, et il va ressortir pendant les années 50. On le reverra ensuite dans différents ciné-clubs, etc. Actuellement, on peut le voir souvent, de temps en temps, il passe à la Cinémathèque ou sur France 3 le dimanche soir.
Oui, sur des chaînes du câble aussi, je l'ai vu passer.
Sur des chaînes du câble. Et donc, moi, tout ce que je vous propose, c'est d'aller le voir.
Ah, j'ai bien envie d'aller le voir.
Moi, ça me fait trop flipper, ces trucs.
La course-poursuite avec les hommes trop, je vais peut-être aller voir.
Bah, en fait, le problème que pose ce film, c'est que qui n'est pas un film de cyclisme.
Sur le cyclisme.
Merci de le comprendre.
Le spectateur voit. Il est, grosso modo, on pourrait dire, invité à se projeter dans des corps différents du sien. C'est un film, toute la première partie du film va ressembler un peu à une télé-réalité, où pendant les premières scènes, on va voir tous les monstres vivre, faire leur lit, manger, les femmes sans bras, manger, boire avec leurs pieds. C'est la vie de tous les jours, mais vécue par des monstres, qui peut paraître assez dérangeant.
Ouais, clairement, oui. Ouais.
Ensuite, et il se trouve que, comme d'habitude, les monstres ne sont pas ce qu'on croit.
Eh oui.
Et je vais finir sur cette belle phrase, parce que j'avais prévu une très belle phrase de fin que j'ai perdue.
Est-ce qu'il y a des clowns?
Ça, c'est des vrais monstres, les clowns.
Ouais, ça me fait flipper, justement. Je déteste les films avec des clowns.
Ouais, j'aime pas les clowns.
Ça se passe dans un cirque. Je veux pas spoiler, mais ça se passe dans un cirque.
Ouais, non, ça va pas le faire. Je vais pas le regarder ce soir, j'ai pas dormi.
Genre, il y a plein de monstres, et nous, on s'est dit, putain, les mecs, il y a des clowns, on s'est pas regardé ça.
C'est exactement ça, ouais. Non, mais c'est intéressant, hein, je pense. Je pense que c'est intéressant de regarder aussi pour voir par rapport à l'époque, justement, comment ces gens étaient traités, quand même. Hein, parce que c'est... Enfin, actuellement, ce serait scandaleux d'avoir quelque chose de pareil, quoi. Enfin, pas forcément le film, mais le cirque en lui-même, quoi. Pour ça, ça doit être intéressant à regarder, quoi.
C'est intéressant, on va se retrouver, trouver un thème un peu similaire dans Elephant Man de David Lynch en 80, où toujours une personne différente, un monstre qui n'est pas le monstre qu'on croit, c'est tout. Et c'est un film qui est très humain quand on le regarde bien, mais quand même très très dérangeant.
Et voilà. Faut savoir que X-Files a fait un épisode sur ce thème aussi.
Ouais, ouais. Ah, c'était un hommage à ça d'ailleurs.
Et South Park aussi.
Lynch a bien aimé ce thème. Lynch, dans Twin Peaks, on a aussi ce thème dans certains des épisodes, les vieux qui ont vu cette série.
Mais il y a des jeunes qui l'ont vu.
Oui, on le trouve très facilement dans des sites de téléchargement presque légaux.
On ne veut pas connaître tes cousins suédois.
On les connaît tous.
En Suisse, c'est légal, hein. Moi je m'en fiche.
Ah ouais. Très bien.
Ben voilà, je voulais juste essayer de vous donner envie de voir un film un peu différent.
Ben moi je vais le regarder.
Et je vous promets que moi aussi j'irai le voir.
Moi j'en ai des souvenirs très lointains, mais je l'avais vu, je sais pas combien de dizaines d'années.
Ah ouais.
Tu m'as intrigué, je suis intéressé là. Pour ma culture, je pense que je vais le regarder.
Oui, vous verrez, c'est très court, hein, ça dure une heure. Ça existe en DVD et autres, on le trouve très facilement.
Très bien. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Zafeu.
Mais de rien.
Et on va passer à Jonathan. Est-ce que tu es prêt?
Non.
Trop tard. Alors, c'est toi qui m'as passé la musique. Qu'est-ce que c'est?
Eh ben, je sais pas, vous l'avez deviné.
Ça me dit légèrement quelque chose, mais non.
Alors, c'est la musique du premier Total Recall. Le seul qui a existé, hein, on est d'accord.
Il y en a eu
qu'un,
oui. Ouais, pas un truc bizarre avec Colin Farrell dedans. Enfin, et voilà. Et en fait, j'ai choisi parce que dans le premier Total Recall, justement, le personnage va sur Mars. Enfin, On n'est pas sûr, il reste une grosse discussion à la fin du film, on va garder ça pour l'after. Voilà. Mais en tout cas, il y a une partie qui se passe sur Mars, et comme je vais parler de la trilogie martienne, il me semblait que c'était assez bien choisi.
C'est pas mal.
Moi, je l'ai mis de Mars Attack, donc c'était moins bien.
Ouais, non, mais ceci, c'est bien Mars Attack aussi.
Enfin, c'est pas de la RDSF.
Voilà,
c'est ça. Enfin, quoi qu'on sait pas, hein. Peut-être le jour où ils arrivent, on verra que c'était de la RDSF.
C'était en fait de la RDSF.
Exactement. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors, il s'agit de trois livres. Peut-être petite définition de la RDSF pour ceux qui connaissent pas tellement la science-fiction. La science-fiction, c'est quand on essaye de faire rentrer la science profonde et logique dans la science-fiction. Moi, je dirais presque que c'est de la... Maintenant, le mot m'échappe...
De l'anticipation
De l'anticipation, ouais, voilà, exactement, merci. Dans le sens où, finalement, c'est des événements, là, en l'occurrence, qui se passent en 2026, et potentiellement, en 2026, si la science et l'économie et tout ça restent à peu près à notre niveau, on risque bien de se retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que c'est de la RDSF. On n'utilise pas de magie pour expliquer des choses, on utilise des principes mathématiques ou biologiques qu'on connaît actuellement. Alors,
on extrapole
aussi,
un peu.
Qu'on extrapole un peu, voilà. C'est le truc qu'il faut se dire. Ce qui est expliqué dans ces livres-là n'est pas possible aujourd'hui, mais ça le sera potentiellement un jour. Alors, l'auteur, il s'agit de Kim Stanley Robinson, qui est un Américain, qui a beaucoup de thèmes qui l'intéressent beaucoup. Et c'est là aussi où on se retrouve dans la RDSF, c'est qu'on a aussi des thèmes sociologiques et politiques qui rentrent dans la science-fiction. On n'est pas seulement sur une aventure un peu bébête d'exploration, hein, même si on aime tous ces aventures un peu bébêtes, mais il y a beaucoup de sociologie dedans, voire même d'anthropologie, de contrôle de système politique aussi. Alors Kim Stanley Robinson, il croit en la puissance du travail, à l'individualisme et à l'entrepreneuriat, il n'est pas américain pour rien, mais en même temps, il est contre les grosses firmes, qui ne sont pas écologiques. Il parle de la science et des scientifiques et de leur importance dans les responsabilités de leurs découvertes. C'est-à-dire, il intègre vraiment le scientifique dans ses aventures. Quel va être leur choix, quelle va être leur décision, et quelles vont être les conséquences, par du principe que de nos jours, par exemple, les scientifiques font de la recherche, et c'est super intéressant, mais réfléchissent finalement très peu aux conséquences de leur recherche.
Un manque d'éthique, quoi.
Ouais, enfin, éthiquement, tu peux décider de faire quelque chose qui n'est pas éthique pour quelqu'un d'autre.
Oui, c'est vrai.
C'est
oui.
Très compliqué. Hein. Non, on verra justement, et c'est ça qui est passionnant dans ces trois livres, c'est que il n'y a pas de réponse qui est donnée à aucune des questions qui est posée. C'est plutôt des pistes de réflexion, mais qui sont quand même très bien explorées. Il a reçu 11 awards majeurs dans la science-fiction, cet auteur, dont 2 Hugo pour Mars la verte et Mars la bleue, et un Nebula pour Mars la rouge. Donc c'est quand même des gros bon livre de SF. Le premier, il a écrit en 1993, qui s'appelle Mars la rouge. En 94, c'est Mars la verte. Et en 96, Mars la bleue. Puis c'est une trilogie, mais il y a un recueil de nouvelles qui a été ajouté à ça, qui s'appelle The Martians, qui est sorti en 1999. Alors, c'est 3 très gros livres qui sont pas forcément faciles de prime abord. Je vais même essayer de vous convaincre de les lire. Des questions jusque-là ?
Jusque-là, tout va bien. C'est limpide.
D'accord, on va essayer de rester limpide alors. Alors, premier livre, Mars la Rouge. C'est le début de la colonisation sur Mars. En fait, on n'est même pas encore sur Mars. On est en 2026, à bord de l'Ares. Il y a un système assez intéressant de vaisseaux avec un réservoir qui est utilisé ensuite pour voyager jusqu'à Mars. Il faut savoir qu'il faut à peu près 6 mois pour voyager vers Mars. Et c'est là où on est dans la RDSF, il n'y a pas de porte des étoiles.
De l'espace.
Voilà, exactement.
De warp. C'est...
Voilà, exactement. C'est dommage, hein. Ouais. Mais voilà, ça rend aussi le voyage plus intéressant parce qu'on s'aperçoit déjà, il y a 100 personnes dans ce vaisseau Ares, et on s'aperçoit déjà que vivre à 100 personnes sur un vaisseau n'est pas si évident que ça.
Ouais.
Et notamment, il parle des sélections. Et c'est passionnant. Alors, on est toujours dans la science-fiction, hein, donc il essaye de savoir comment est-ce qu'on aurait pu sélectionner ces gens-là, ces 100 personnes qui vont coloniser Mars.
Ouais.
C'est les 100 premières personnes qui vont poser leurs pieds sur une planète. C'est passionnant. Comment est-ce que tu fais pour choisir ces gens-là ? Qui tu sélectionnes ? Comment tu les sélectionnes ? Comment est-ce que tu fais ? Parce que 100 personnes, c'est beaucoup de personnes. Donc, comment est-ce que tu fais pour être sûr qu'ils ne vont pas s'entretuer au bout de 3 mois.
Ouais.
Et c'est passionnant parce que c'est typiquement les questions qu'on se pose actuellement. Il y a Mars 500 qui a été créé, et on sait actuellement, si on veut faire Mars aller et retour, il faut à peu près une année et demie entre le voyage, rester à peu près 6 mois sur place, et puis revoyage de 6 mois. C'est très long, ça a été testé sur, je crois, ils étaient 3 ou 4 en Russie. Il y a déjà eu quelques problèmes, mais a priori, c'est possible que ce soit viable, mais sur 100 personnes, on n'a jamais testé. Et on se rend compte aussi, et il explore ça dans le livre, et je trouve ça vraiment passionnant, pour lui, quelqu'un qui est intelligent et qui veut aller sur Mars, c'est vraiment son désir, il peut tromper tous les tests. Enfin oui, ça pend... enfin, nous on est un peu des fans de SF comme ça, on y a peut-être déjà réfléchi, mais pour quelqu'un qui a jamais réfléchi, on se dit oui, ben voilà, il y a des tests sociologiques, génétiques et tout ça pour sélectionner une personne qui est censée être équilibrée.
Ouais, mais c'était vraiment, vraiment motivé.
Ben voilà, et le problème c'est que quand tu prends les 100 personnes potentiellement les plus intelligentes et les plus amènes de créer une société, tu prends aussi les 100 qui sont capables
plus
de
facilement
mentir.
Fourbes.
Voilà, exactement. Et qui ont peut-être même participé à la fabrication de certains tests. Et c'est là qu'on voit déjà dans le vaisseau qu'il y a des petites différences idéologiques chez certains. Et ça, ça va suivre vraiment sur 200 ans, les trois livres hein, forment 200 ans de la colonisation martienne. Et c'est passionnant parce qu'on se dit aussi une chose, qu'à mon avis, on pense pas aussi quand on pense au voyage vers Mars, c'est qu'une fois que t'es sur Mars, t'es 100 personnes, t'as de la bouffe, t'as de l'eau, t'as des outils. Tu fais quoi ? Au début, tu construis ton petit abri, puis après, tu fais quoi ? Ben, tu crées une nouvelle société, et à partir du moment où t'as une société qui est autonome, la Terre, on n'a plus rien à faire.
Oui. C'est aussi un des grands thèmes de beaucoup de bouquins de science-fiction avec les révoltes martiennes et tout ça.
Exactement. Et c'est, alors, c'est pas forcément du nouveau, hein, mais là, c'est vraiment expliqué d'une très bonne manière et avec les systèmes politiques qui sont testés. D'accord. Et je trouve ça vraiment passionnant parce que finalement, là, j'ai cité l'année de 2026 pour le départ vers Mars. Mars One, hein, qui est potentiellement, on va dire, cette sorte de télé-réalité qui se passera sur Mars, on est encore très incertain sur la faisabilité de ce projet, mais la date d'échéance, c'est 2024. Donc on est quand même très proche.
Dans les clous.
Voilà, exactement. On est quand même très proche. Alors il n'y a pas 100 personnes qui vont y aller. Hein. Je crois que c'est une quinzaine de colons, on va dire, qui vont y aller, mais ces questions-là commencent à devenir de plus en plus d'actualité, j'ai envie de dire. Alors voilà, pour continuer un petit peu, il y a la construction d'Underhill, qui est la première construction martienne, et là aussi, on commence à avoir aussi... Ce qui est passionnant aussi, c'est, par exemple, l'art. Comment va évoluer l'art sur Mars ? Parce qu'on n'a plus les mêmes contraintes techniques, on n'a plus les mêmes matériaux, et il y a moins de gravité, donc on peut faire des choses vraiment différentes que sur Terre. On peut recommencer quelque chose, tout en reproduisant un petit peu ce qui s'est passé sur Terre. C'est aussi vraiment passionnant. Il y a Phobos, un des satellites de Mars, qui est colonisé assez rapidement. Alors ça aussi, c'est beaucoup vu dans les livres de science-fiction, mais là aussi, il y a création d'une nouvelle société, de nouvelles dynamiques. C'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a le terraformage, qu'on connaît tous.
Terraformage.
Voilà, qu'on connaît tous, hein, transformer la planète Mars en Terre numéro 2. Voilà. Et simplement, là aussi, qu'est-ce qu'on fait en vrai ? Parce que pour nous, ça semble logique d'adapter une planète à notre environnement et puis qu'on puisse y vivre normalement, sans masque, sans rien.
Ouais.
Et en même temps, c'est un comportement qui est tout sauf écologique. Parce que l'écologie, c'est préserver l'environnement qui existe. Et nous, s'y adapter. Donc, entre guillemets, l'écologie, ce serait d'aller sur Mars et de garder nos masques pour ne pas changer son atmosphère, sa terre et tout ça. Et donc là, il va y avoir... c'est pas vraiment du spoil parce qu'on le comprend assez vite.
J'imagine qu'il y a deux courants qui vont arriver.
Exactement.
Des écolos. Ouais.
Voilà, les écolos qui sont appelés, du coup, les rouges. Mars,
oui,
la rouge. C'est rigolo, hein, mais c'est vraiment passionnant. Et...
Mais c'est raconté comment ? Parce que de la manière dont tu le dis, on sait pas trop si c'est un... comme un roman ou plus comme un documentaire, tu vois ?
C'est parfois entre les deux, c'est-à-dire... Mais l'histoire, elle suit vraiment quand même une chronologie, elle suit des personnages. Et puis, comme dans Mars la Verte, qui est le deuxième numéro, on va apprendre qu'il y a des solutions qui sont trouvées pour allonger la vie des gens. En fait, ces 100 premiers vont avoir une vie qui n'est pas éternelle, mais qui est très longue. Et donc, on va pouvoir voir aussi l'évolution dans la psychologie de ces gens, qui sont des évolutions qu'on peut tous avoir. Hein. Au début, on va tout transformer. Puis après, il y a un petit peu la fibre écologique qui revient. Donc, on regrette ce qu'on a fait. Et du coup, de voir ces personnages évoluer, leur interaction, c'est hyper intéressant. Puis, relativement rapidement, il y a des émigrants qui viennent. Et du coup, ça change aussi complètement le fonctionnement de la société. Il y a le terrorisme qui arrive très vite aussi. Ben oui, ça s'importe, même sur Mars. Et puis, il y a le choix du système politique. Et puis, c'est un peu aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans la science-fiction. Il y a la Terre qui décline, et puis Mars qui commence à augmenter parce qu'elle a assez de ressources et elle est autosuffisante. Et forcément, un jour ou un autre, il y a un conflit.
La Terre va...
Exactement.
va vouloir revenir.
Exactement, mais du coup, la Terre qui revient sur Mars... et qui fait peut-être des états policiers, peut-être des états avec des grosses corporations. Mmh. On retrouve quand même des thèmes qui sont centraux dans la science-fiction, mais je trouve que c'est vraiment expliqué d'une manière assez profonde et intéressante. Souvent, on se contente d'évoquer certaines choses, lui va dans la profondeur des trucs.
Souvent, c'est souvent des prétextes pour faire un récit.
Voilà, souvent, en fait, c'est après les révoltes martiennes, voilà, et voilà l'histoire de deux mecs qui sont paumés là. Là, on a... pour moi, ce à quoi ça me fait le plus penser, c'est les fondations d'Isaac Asimov. Vois, où on voit vraiment l'évolution d'une société sur le temps. Alors là, c'est sur 200 ans, donc c'est beaucoup plus court, mais c'est dans la même idée de voir évoluer les choses. Il y a de temps en temps des sauts temporels qui sont faits parce qu'il n'y a pas forcément grand chose qui est intéressant, mais chaque fois tu retrouves les mêmes personnages qui ont des rapports. Ils ont aussi des rapports amoureux entre eux, hein, parce que quand ils ont démarré à 100, là aussi c'est un problème qu'on va se retrouver sur Mars, hein, même si t'as 100 personnes, tout le monde n'étant pas forcément ni fidèle ni amoureux tout le temps de la même personne, il y a rapidement des conflits de personnalité qui viennent, des conflits politiques peuvent entrer dans les sentiments, et du coup on se rend compte que fabriquer une société, c'est complexe et amène beaucoup de problèmes auxquels on pense pas forcément maintenant. Qu'est-ce que j'ai à dire encore sur ça? Il y a beaucoup d'analyses philosophiques aussi, hein. Il se pose beaucoup de questions, Kim Stanley Robinson, et j'ai envie de dire que c'est pas chiant, quoi. C'est ça le problème quand on commence à parler de politique, d'analyse philosophique. C'est rapidement ennuyant, mais lui arrive toujours à intégrer ça dans une réalité qui rend la chose intéressante, quoi. On est vraiment dans la pratique. Par exemple, quand ils deviennent vieux, à plus de 100, 150 ans, ils commencent à perdre un peu la tête et puis à avoir des pertes de mémoire, parce que pour lui, l'humain n'a pas évolué. En fait, on a juste augmenté son niveau de vie,
et
du coup le cerveau a pas eu le temps de s'habituer à vivre 50 ans de plus.
D'accord.
Ça paraît bête, hein, mais d'un côté c'est vrai. Est-ce qu'on sait ce qui se passerait si on vit 150 ans? Ben, on n'en sait rien, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis Mars la Verte, hein, qui est le deuxième, où là on commence à avoir des plantes et tout ça, il y a le terraformage qui se fait, hein, parce que c'est, de toute façon on sait que ça va se faire, hein. L'écologie c'est toujours laissé en arrière des intérêts humains, on le sait, hein, de toute façon. Il y a des multinationales qui ont payé beaucoup d'argent pour aller sur Mars, ils veulent forcément un retour sur investissement. Et puis Mars la Bleue, où là on a la formation des premiers océans martiens, parce que dans le terraformage globalement, hein, on met d'abord les plantes qui permettent aussi d'augmenter, d'avoir une atmosphère, d'augmenter la température. Et là aussi, lui, alors parfois c'est peut-être un peu compliqué sur la biologie, mais il explique les systèmes qu'il y a sur Terre et il les adapte à Mars, en fait.
D'accord. Chaque fois avec une grosse rigueur scientifique.
Ouais, voilà. Alors des fois, ça a tendance peut-être à larguer un peu sur certaines choses, mais c'est intéressant parce que du coup, alors que l'aventure se fait sur Mars, ben toi, t'apprends des choses sur la Terre. Ça, vraiment super intéressant. Et puis, parle de business démocratique, d'immigration illégale de la Terre, bien sûr, des cités sur les astéroïdes, enfin, plein de choses qu'on a l'habitude de voir dans la science-fiction. Mais ça fait plaisir, je trouve, d'avoir une fois quelque chose d'un peu plus profond, quoi. Enfin, j'adore Star Wars, par exemple, mais c'est de l'aventure, quoi. Il n'y a aucun détail qui est donné. Enfin, dans l'univers étendu, déjà plus, hein, mais... Et là, d'avoir de la RDSF, vraiment, je trouve que tout le monde devrait une fois jeter un œil à la RDSF, parce que ça pose des bonnes questions. On fait partie un peu de cette génération où je pense qu'il va y avoir les premiers colons sur Mars avant qu'on meure. Sincèrement, c'est faisable. Je veux dire, même si 2024, c'est certainement trop positif, on se doute bien que 20 ans plus tard, quand on sera vieux mais encore là, ça va quand même se passer, quoi. Ce sera pas vraiment la colonie.
Enfin, des gens
ça
sur
va
Mars,
se passer,
peut-être.
Voilà.
Une colonisation,
c'est encore beaucoup plus loin. Mais bon, d'un côté, je veux dire, tu vois... Si nos arrière-grand-mères avaient su qu'on allait dans l'espace, tu vois, d'un côté, est-ce que nos enfants, ouais, nos petits-enfants seront peut-être des colons sur Mars ? On n'en sait rien, finalement, tu vois. Ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement. Puis bon, on va dire, avec l'économie de nos jours, par exemple, ça perd vite du temps.
Il y a des trucs, oui, qu'on n'avait pas pris en compte sur l'évolution de la société, c'est l'économie, l'importance de l'économie.
Puis bon, la technologie, un minimum, quand même. Par exemple, on n'a pas de voiture volante, pas d'overcraft, c'est nul, quoi.
Et c'est clair.
Voilà. Mais...
On nous a menti à un point.
Ah ouais, c'est scandaleux. Quand on était petit, on croyait tout ça. Et maintenant, on est un peu déçus de la vie. C'est triste. C'est non, mais voilà. Je vais pas aller plus loin là-dessus. Mais vraiment, ces trois livres qu'il faut lire, je pense. Vous les trouvez à acheter, mais ils sont relativement chers. Si vous voulez des versions électroniques qui ne sont pas sorties officiellement, c'est toujours possible de les avoir, hein, sur Twitter, @voyagecast, si jamais.
Bah oui, c'est dit, hein, je laisse.
Non, mais c'est vrai, je trouve ça scandaleux quand il y a des livres qui ne sont pas disponibles en version Kindle. Mais comment je fais pour... Moi, je ne vais pas me trimballer en voyage avec trois livres de 500 pages, quoi, ça va. Sans compter que tu les as déjà lus, peut-être déjà achetés, enfin voilà. Bref, je trouve que la connaissance devrait être gratuite et je participe à ça en partageant.
C'est vrai que c'est un thème super intéressant. La première fois que j'avais entendu parler de ces bouquins, c'est Docteur Non qui avait fait un dossier dans un ATG ou un Quonatour, je sais plus. C'est vrai que déjà là, il soulevait plein de questions super intéressantes. C'est vrai que ça donne envie de les lire, les bouquins. Il faudrait que je retrouve cet épisode.
Ouais, je trouve que c'est... Enfin, moi, personnellement, ça me fait rêver de penser à ça. Et le fait d'y penser d'un côté concret, enfin, on a tous eu envie de se balader avec un sabre laser, mais là, ça fait un peu plus réel et donc j'ai plus... Enfin, je me mets plus à la place de ces personnages et je me vois vraiment là-dedans, quoi. Ça, passionnant.
Bah écoute, merci.
Merci à toi.
On va passer à la fin. On va passer à Randall Flagg, soulignement, à toi. Banshee,
rien que le générique est super. Bon, moi, je vais être vachement plus léger que nos deux derniers intervenants, hein, mais c'est très sympa aussi.
Et quoi, j'étais de Banshee, léger, moi ?
Oui, toi, t'étais très très léger, mais moi aussi. Et eux, ils sont un peu lourds.
Merci, c'est sympa, ça fait plaisir.
J'ai rien entendu.
Non, mais je vous parlais d'une petite série qui s'appelle Banshee. Alors, c'est une série américaine créée par pas mal de monde, mais surtout un qui est un peu connu, qui s'appelle Alan Ball. Alors, rien à voir avec Uwe Boll, hein, je vous connais tout de suite.
Ah, ouf, je suis
rassuré. On a eu chaud. C'est le scénariste d'American Beauty, vous avez dû voir.
Ouais,
ça,
c'est bien ça.
Ça c'était bien. Et c'est surtout aussi le créateur de True Blood et de Six Feet Under.
Ah, ok. Oui.
Là.
Bah, c'est tout dans la finesse alors, ton truc, je pense.
Ouais, c'est tout dans la finesse, c'est le mot qui va bien. Je vais vous raconter un peu je vais vous pitcher ça. Alors, on est en Pennsylvanie, et c'est suite à 15 ans de prison qu'un mec en sort. Alors, on sait pas son nom. Seulement qu'il vient de sortir de prison et qu'il a bien... Il a l'air bien... Qu'il a bien ramassé tout ça. La rage. Et après s'être, on va dire, rafraîchi dans un bar avec la petite serveuse, il va rejoindre un de ses potes en ville qui s'appelle Job et qui va l'aider à trouver à retrouver une adresse. Non, pas Steve, non plus.
Essayez.
Il va donc l'aider à retrouver une adresse d'une fille qu'il a envie de retrouver, on sait pas trop pourquoi. Et cette adresse se trouve à un village qui s'appelle Banshee. Le seul endroit où, d'après Job, il ferait mieux de pas y mettre les pieds. À peine de sortir de chez Job, il commence à se faire courser par des mecs qui lui tirent dessus. À grands coups de flingue, il commence à courir dans tous les sens et à s'échapper en piquant une moto. Il se dirige vers Banshee. Arrivé là-bas, bah, c'est que pour recommencer les emmerdes, puisqu'il s'arrête dans le premier bar complètement perdu hors de la ville qu'il trouve. Et là, il rencontre un certain type qui se trouve être le nouveau shérif de Banshee qui vient d'arriver. Et là, suite à un quiproquo avec d'autres gars dans le bar, il se fait tuer le shérif et les types qui l'attaquaient aussi. Et du coup, lui, il trouve rien de mieux. Enfin, il n'a pas trop le choix, finalement. Il va prendre l'identité de ce shérif. C'est à partir de ce moment qu'il va commencer à avoir un nom, d'ailleurs, Lucas Hood. Il va se retrouver à remplacer le shérif dans cette ville, puisque personne ne le connaissait, le shérif. Donc, il prend la place du shérif dans cette ville et va essayer de retrouver la fille qu'il cherchait dans la ville. Et en fait, cette série va raconter les histoires de ce type qui va pas arrêter de se balader entre la légalité... Parce que quand même, c'est un gentil. Et l'illégalité, parce que quand même, il aime bien taper. Voilà. Il aime bien taper sur les gens. Surtout ceux qui le méritent. Ce petit village-là se trouve à la frontière entre un territoire amish et un territoire indien, histoire de compliquer un peu la sauce.
Et donc,
il va faire régner l'ordre à plus ou moins sa manière. Et on va rencontrer des personnages, mais c'est des personnages de comics, en fait. C'est presque un comics filmé, ce truc, tellement c'est... Les trucs sont un peu caricaturaux, mais si vous connaissez un peu True Blood, qui est un petit peu mal tourné, on va dire, la série. Au début, c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment le côté un peu exagéré de tout ce qui s'y passait. Là, il n'y a pas du tout ce côté vampire et compagnie, mais il y a ce côté comics. Par exemple, le grand méchant qui est un ancien amish s'appelle Kai Proctor. Rien que le nom, ça place le gonze. Voilà, il va se retrouver dans un commissariat qui est situé dans une ancienne usine Cadillac ou un truc comme ça, rien que le décor et aussi dans l'esprit. Il y a quelques flics qui sont un peu méfiants parce qu'ils se demandent qui c'est. On va retrouver aussi le chef indien qui est un petit peu pourri parce qu'il veut garder le pouvoir. Toute la série va basculer entre l'humour un peu glauque et noir et le truc un peu vraiment sombre parce qu'il se passe des trucs vraiment pas marrants. Ça passe sur une chaîne qui s'appelle Cinemax, donc c'est un réseau privé qui est pas très très connu, donc ça leur donne toute latitude pour faire tout ce qu'ils veulent à l'écran, si vous voyez ce que je veux dire. Et on n'est pas sur une chaîne publique où on doit faire des trucs PG-13.
C'est sorti sur Canal Plus Série aussi, je vois.
Ouais, il est sorti depuis septembre sur Canal, je crois même. Il a été diffusé sur Canal Plus, je sais pas si c'est Canal Plus Série.
Canal Plus Série.
Il y a c'est deux saisons de 10 épisodes, il va y avoir une troisième. Voilà, quoi vous raconter de plus, les acteurs sont tous assez monstrueux et il faut pas trop compter sur tous pour les garder toute la série, quoi, voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Et un truc très, très marrant aussi, c'est le générique de la série où on voit tourner la molette d'un coffre-fort qui s'arrête sur trois chiffres et je me suis souvent demandé pourquoi les trois chiffres... était ainsi, et d'ailleurs sur la saison 2 c'est pas les mêmes, donc j'ai fini par chercher et en fait on va s'apercevoir que les trois chiffres représentent des trucs qui se passent dans la série. Il y en a un, ça va être un verset de la Bible qui est donné par un des personnages. Un des autres chiffres, ça va être le nombre de morts dans la saison. Et voilà, je sais plus quel est le troisième chiffre, mais chaque chiffre veut dire quelque chose. Et...
Nombre de morts dans la saison 1, c'est...
Ah, je me rappelle plus.
Pas 44 ?
Ouais, quelque chose comme ça, c'est autour de la quarantaine, je me rappelle plus.
C'est pour dire, quoi. En 10 épisodes, hein, 44.
Voilà, c'est ça. Je crois que c'est sur le deuxième, ça doit être 65, un truc comme ça.
Et ce qui est marrant, c'est que en dehors de toi, j'avais jamais entendu parler de la série du tout.
Mais elle est pas du tout connue, ouais. Et pourtant, elle marche très bien, c'est-à-dire que pour un petit network comme ça, ils sont assez contents du résultat. D'ailleurs, il y a leur nouvelle.
Et j'avais aussi lu, enfin, je sais plus si c'était pour la saison 2 ou saison 3, ils ont dit « Bon, on va peut-être enlever quelques scènes de cul qui sont un petit peu en trop et qui apportent pas grand-chose à l'histoire. »
Oui, il y en a un peu moins des scènes gratuites dans la saison 2, en effet.
Ouais, ça a l'air bien, ça, ce que tu racontes.
Ouais, effectivement. Moi, j'ai un titre magnifique, Banshee, du sexe, de la bagarre, des mormons et une musique d'enfer.
C'est ça. C'est un peu ça.
C'est bien résumé.
C'est assez bien résumé. Mais c'est ça, il faut vraiment voir ça comme un comics, quoi. C'est vraiment au deuxième ou troisième degré, et c'est très très fun. Et le héros, en fait, à chaque épisode, tu dis, mais qu'est-ce qu'il peut se prendre dans la tête? Chaque fois, il se fait défoncer la tronche. Il y a la moitié de la saison, là, il a un bandage sur la main, et je me demande si c'est pas une vraie blessure qui s'est fait dans la série. Parce que vraiment, il ramasse.
Donc, si vous voulez du sale, Banshee.
Banshee, c'est approved.
Très bien. Bon bah merci, on va passer à la conclusion. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et un grand merci également aux invités Randall Flagg, Desert bon Riders à feu et Jonathan. Mais avant de vous lâcher, on va d'abord voir où est-ce qu'on vous retrouve. Randall Flagg, toi je sais, on te voit partout.
Sur Randall Flagg _ sur Twitter et sur gribouillon.fr.
C'est tout ?
Ah oui !
Ouais, c'est déjà pas mal.
Voilà.
Oui, il y a aussi... Vas-y, dis-le.
Il y a aussi freshpods.fr où vous pouvez retrouver plein de podcasts.
Que du bon. DZ Rider, puisque tu parles.
Oui, bah DZ Rider sur Twitter, et sinon c'est dans lesprojetsduweb.net avec mon ami Not Kirby. Bon, pour l'instant, on est en petite pause. Et sinon, un grand podcast qui va devenir vraiment un très grand podcast, c'est Les Pochards du Web.
Ah ouais.
Oh yeah.
Qui se trouve sur les
podcasts de l'alcool et de l'alcool.
50% web, 50% pochard, 100% podcaster.
Oh, putain.
Avec du coup Zafeu, hein, qu'on retrouve là-dedans.
Et oui,
c'est vrai.
Et qui veut venir, vient. vraiment, c'est open.
Dès que quelqu'un a soif.
Non, mais clairement, si vous avez un vin à faire découvrir, parce que vous avez envie de parler, parce que vous l'avez trouvé superbe, vous nous contactez sur Twitter, @pochardduweb, je crois.
C'est ça. Avec un S à pochard.
Ouais. Et donc voilà, on sera ravis de vous accueillir. Et voilà.
Zafeu!
Eh bien, moi, on me retrouve sur Twitter, @zafeu, Z-A-F-E-U, simple. Comme il a été mentionné un peu plus tôt, aussi sur les pochards du web.
Attention, tu commences à tourner Laurent Doucet, toi. Quand ça va partout. Attention.
J'ai fait que ça pour l'instant.
Faut qu'il pense à faire breveter son nom.
Et puis c'est tout, je crois que ça suffira.
Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Jonathan, terminé par toi ?
Sur voyagecast.ch, voyagecast sur Twitter, et voilà, c'est à peu près tout. Enfin, un peu partout à d'autres endroits, mais
sur Podcast,
voilà, sur Podcast Suisse. Mais bon, enfin voilà, tapez Voyagecast sur Google, vous trouverez podcast sur le voyage absolument merveilleux à écouter d'urgence.
et dis donc, monsieur Péremptoire, où te retrouve-t-on sur la
Internet ? Ah non, vous le faites à chaque fois, j'en ai marre.
Ah si.
@péremptoire et puis débrouillez-vous. Hein.
Bah, sinon, vous tapez #2048 et.
Oui, non, je l'ai fini. Depuis que je l'ai fini une dizaine de fois, c'est moins intéressant. très bien, pour les remerciements, j'ai juste envie de remercier l'équipe de Sava Tranché parce que nous sommes allés avec Desert Rider.
Yeah. Quelle soirée.
On est allé samedi 15 mars, on est allé voir Sava Tranché en direct dans un bar. Donc, on a bu quelques godets avec l'équipe, on a mangé un morceau et puis c'était, ma foi, très très sympa. Bon, au niveau public, il n'y avait pas fou, hein, vu qu'on était deux.
Mais que du monde, mais bon, on a pu un public de qualité. Quoi? Restreint, mais de qualité.
Bah oui, j'entends. Mais on a pu un petit peu participer à l'émission, et puis faut entendre nos voix, c'était sympa. Il y a même la vidéo du live qui traîne, si vous voulez voir. Non, j'ai pas parlé de Laurent Doucet, parce qu'on parle trop de
lui. Oui, oui, voilà.
Bref, moi, c'était un petit week-end super sympa. Et au passage, on fait un petit coucou à Space Origin, et ils comprendront s'ils nous écoutent. Voilà. Allez, c'est le temps de lancer la fin de l'émission, je vais perdre un peu. Alors, vous pouvez retrouver l'émission sur leséclairspodcast.wordpress.com, sur Twitter, @les_éclaireurs, sur Podradio, la radio des podcasts, sur podcastfrance.fr, sur freshpods.fr également. Et on se retrouve dans deux petites semaines, si j'ai le temps, je garantis pas, mais dans deux petites semaines avec des nouveaux invités. Allez, ciao.
Salut.
Ciao.
La bagarre.